L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Bambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème la persévérance. Et aujourd'hui, nous recevons encore une fois Jonathan Junior Mambou. Bonjour Jonathan.
Bonjour et bonjour à vous tous qui nous suivez.
D'accord. Avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter, Jonathan, à baisser la tête dans la prière, à nous conduire dans la prière quelques instants afin de dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur.
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te recommandons ce moment. Il est écrit, Seigneur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Laisse que, Seigneur, au travers de ce message, que ceux qui nous suivent puissent te retrouver, toi qui es le chemin. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. La persévérance, c'est notre troisième émission. Je vous invite à lire dans Hébreux 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12, il dit ceci. Pardon, commençons au verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Jonathan, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur la persévérance?
La persévérance, comme on l'a dit dans les émissions précédentes, elle fait face à des difficultés, elle fait face à des réalités qui viennent s'opposer à l'homme, au chrétien. Ce qui demande à l'homme de pouvoir avancer, de ne pas se relâcher. Je voudrais toujours faire ce commentaire par rapport à ce texte que tu viens de lire. C'est que lorsqu'on voit même les chrétiens de l'époque, ces chrétiens qui avaient cru au Seigneur, ils persévéraient parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose de merveilleux qui les attendait devant. Je me rappelle encore de ce texte de Jean 14 où le Seigneur dit aux apôtres, je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Cette promesse-là était si merveilleuse que les disciples, après la séparation avec le Seigneur...
Il faut préciser les premiers disciples. Hein,
oui,
les premiers. Parce que ce ne sont pas les seuls disciples.
Ok. Disons ça quand même, Jean chapitre 14, on commence au premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'était une promesse qui est restée comme une marque dans leur pensée.
En fait, c'est comme si tu essaies de dire que promesse et persévérance sont attachées.
Oui.
Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle.
Oui.
Voilà pourquoi nous devons persévérer dans les promesses qu'il nous a faites, dans l'espérance qu'il nous a faite. Nous marchons dans notre vie de tous les jours, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes, nous avons des obstacles, nous avons des découragements. Mais parce que le Seigneur a promis, nous persévérons dans le chemin qu'il nous a montré. C'est bien ce que tu dis. Il est parti nous préparer une maison, des demeures. Dans le contexte juif, où Jésus parle ici, à l'époque de Jésus, lorsqu'un homme avait prié, mais il n'était pas obligé de la prendre tout de suite. Il pouvait la prendre quelques temps plus tard. Il retournait dans sa maison familiale où on lui préparait un lieu où il allait venir recevoir, où il allait habiter avec sa femme. Et quand tout était prêt, il revenait prendre son église. Il venait reprendre sa femme. Des fois, il pouvait le faire secrètement, ou carrément en public, mais bref, Avant d'arriver, il a envoyé des amis à lui pour demander à sa femme de se préparer et il venait la prendre. Tu vois, c'est un peu l'enlèvement de l'Église. C'est l'image de l'enlèvement de l'Église. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de nous faire comprendre ici. Donc, il prépare une demeure et il vient, mais il faut que celui qui attend Jésus-Christ persévère dans le chemin de l'attente et du retour de son Seigneur. Parce que, qu'on ne se cache pas à la face, qu'on ne se voit pas, dès l'instant où on a donné notre vie à Jésus-Christ, nous ne sommes pas tout de suite allés au ciel. C'est ça. Nous sommes encore ici sur cette terre, avec ce corps, avec ses difficultés, avec ses problèmes. Et Jésus-Christ fait la promesse, je viens vous prendre. Certains diront, ça fait 2000 ans qu'il promet, oui. Ça fait 2000 ans qu'il a promis. Mais il vient réellement prendre son Église.
Amen.
Il viendra récupérer les morts en Christ, sont ressuscités. Les vivants en Christ vont être transformés, changés. Et ensemble, nous allons monter à la rencontre de l'Époux, à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur. Mais pour que cela soit fait, il faut une persévérance. Il faut lutter. Parce qu'il y a des gens qui ont abandonné la foi. Nous allons en parler dans les émissions précédentes. Il y a l'abandon de la foi. Voilà pourquoi Jésus parle, voilà pourquoi la Bible nous parle de persévérance.
Et c'est très important, la pensée selon laquelle de ne pas oublier qu'il y a un lien direct entre la promesse et la persévérance. Parce qu'en fait, là, ça montre que le chrétien a un objectif qu'il poursuit. Il y a quelque chose de merveilleux qu'il ne voudrait pas rater. Et il doit le poursuivre avec persévérance. C'était ça ce qui motivait les chrétiens. Et on a commencé par ce verset de Jean 14 pour que cela soit en fait ancré en nous. Que c'est ça l'espérance des chrétiens. Nous avons une espérance glorieuse. Regardez par exemple la même attitude qui commence dans les Actes des Apôtres. Jésus-Christ qui vit la sainte part. On est dans Actes chapitre 1, verset 11. Je commence au verset 9 pour en donner une idée à nos bien-aimés qui nous suivent. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le dérobait à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui est enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel. Je vais continuer. Là, déjà, je vois des apôtres qui ne veulent pas la séparation. Ils restent là à regarder au ciel. Mais là, on vient leur dire, non, ne restez pas là, il reviendra. Voilà, ça vient en fait marteler encore ce qu'on a lu dans Jean 14. Je continue, il rentre, on est au verset 12, acte 1, 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous voyez, la promesse qu'ils avaient a suscité, je dirais même, a créé en eux une envie de persévérer pour vivre cette réalité. Ils se sont dit, bientôt il va encore revenir, on doit persévérer. Il faut que quand il revienne, qu'il nous trouve en étant persévérant, en avançant. Donc, il y a une promesse qui s'accomplira. Comme tu l'as dit tantôt, Jésus a dit « je viens bientôt » et beaucoup de gens se disent « mais finalement, il vient bientôt ». Il a dit « je viens bientôt », mais jusqu'à ces jours,
depuis 2000 ans,
il ne revient pas. Hein, c'est bien que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui.
Et tu sais que dans les différentes théories qui ont été annoncées ou proclamées par rapport au retour de Jésus, le fait qu'il dise « je viens bientôt », il y a des choses à mon humble avis qui ne sont pas du tout bibliques. Certains disent que le retour de Jésus, le fait qu'il a dit « je reviens bientôt », quand il a envoyé le Saint-Esprit, c'était le retour de Jésus. Il y a des gens qui pensent comme ça.
Voilà.
Ce sont des erreurs.
Mmh. Il viendra.
Il viendra physiquement. J'aime ce verset quand, juste pour faire une parenthèse,
oui.
Lorsqu'ils sont restés au verset 11, au verset 10, en train de regarder le ciel, il est dit, deux hommes vêtus de blanc, c'était des anges, dirent, homme galiléen, pourquoi vous êtes-vous arrêté à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière que vous avez vu aller au ciel. Il est monté physiquement, on l'a vu. C'est physiquement aussi qu'on le verra descendre. Peut-être que Pierre, certainement que Pierre ne le verra pas ses propres yeux. Non, qu'est-ce que je dis? Peut-être que l'époque est différente, mais nous le verrons descendre du ciel et poser physiquement ses pieds sur le sol, tel qu'il était monté. Ce ne sera pas un esprit. Ça sera pas sous une autre forme, non. Un homme physique va descendre. Mais pour que nous puissions le voir, nous devons persévérer dans la marche chrétienne. Et demeurer ensemble d'un commun accord et persévérer dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la marche, malgré les difficultés, malgré les franges, malgré les moqueries. Ils ne se sont pas relâchés dans leur foi.
Nous avons des raisons de persévérer. Je viens bientôt. Et c'est pas bien que c'est une parenthèse, c'est même pas vraiment notre point de développement par rapport à ce thème, mais je voudrais juste attirer l'attention de ceux qui nous suivent, que quand Jésus-Christ a dit « je viens bientôt », il a dit, parmi les sept églises de l'Apocalypse, il l'a dit à la sixième église, pas à la première, pas à la deuxième, pas à la troisième, pas à la quatrième, mais à la sixième qui précédait la dernière église. En fait, cette église, elle préfigurait l'évolution, comment l'Église allait évoluer, jusqu'au jour où le Seigneur allait revenir. Et pour le dire, il le dit à la sixième Église qui précède lui, parce que notre Église actuelle, c'est-à-dire notre génération aujourd'hui, elle est au fait bien expliquée par la dernière Église qui préfigurait, montrait un peu comment cette génération allait se comporter. Une Église qui n'est ni chaud, ni froid, qui est tiède. Et déjà, le Seigneur avait pris le temps d'annoncer à l'avance, déjà, voilà, je viens bientôt. C'est-à-dire, après la septième église, je viens. Et il l'a dit à la sixième église. On en parlera peut-être une autre fois. Mais cette promesse-là est vraie. Il viendra. Et pourquoi il le dit, je viens bientôt? Pour nous amener à persévérer. Pour nous amener à ne pas nous relâcher, parce qu'en fait, le relâchement, c'est vraiment l'ennemi de la persévérance. Je lis par exemple les encouragements des apôtres, prenons par exemple Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le fait de marteler sur une promesse du retour du Seigneur devait être un sujet qui devait les amener à persévérer, à ne pas regretter, à ne pas reculer, eu égard à tout ce qu'ils pouvaient vivre sur terre. Je lis 2 Pierre chapitre 3, verset 9. La Bible dit ceci, à ce Pierre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la persévérance. Vous voyez?
Pourquoi
à la repentance, je veux dire. Pourquoi commence-t-il à dire « le Seigneur ne tarde pas » Parce que, sûrement, il y a eu des chrétiens qui ont commencé à dire « en tout cas, le Seigneur tarde. » Le Seigneur tarde. Et d'ailleurs, il l'a évoqué. Hein? Il l'a évoqué au verset 4, 2 Pierre 3, verset 4. « Et disant, où est la promesse de son avènement ? Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Voilà. C'est-à-dire, il évoque cette pensée selon laquelle les gens disent « mais voilà. » Il a dit, je viens bientôt, je viens, mais où est-il depuis qu'il est parti? Le fait de réfléchir comme ça peut amener quelqu'un à ne plus persévérer, à recourir à des méthodes qui ne sont pas de Dieu. Non, Dieu veut que nous puissions persévérer dans ce qui est bon. Dieu veut que nous puissions persévérer à utiliser les armes de la lumière. Dieu veut que nous puissions persévérer à nous attacher à ses méthodes, à lui. Parce que les méthodes de Dieu sont merveilleuses, sont puissantes, sont les méthodes qu'il faut utiliser pour les enfants de Dieu. Nous devons dire qu'il accomplit toujours. En venant à Christ, Dieu nous montre le chemin. Nous devons nous accrocher à ces chemins-là. Ce chemin est merveilleux, ce chemin est vrai. Et lorsque nous nous tiendrons devant le Seigneur, quand il reviendra enlever son épouse, c'est-à-dire son Église, ces jours-là, nous dirons, ah oui, on avait raison de s'attacher à Dieu. Ah oui, on avait raison de persévérer dans les choses de Dieu, car Dieu ne trompe pas. Voilà pourquoi nous insistons sur la persévérance. Parce que beaucoup de ceux qui ne vont pas persévérer vont pleurer. Pourquoi? Parce que de même que nous insistons, demandons à ce que les chrétiens persévèrent dans ce qui est bon, eh bien, il y a aussi le contraire qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui persévèrent dans le mal, dans le péché. Voilà. Qui consacrent leur vie à faire ce qui n'est pas bien. Mais Dieu vous demande, à vous et moi, à pouvoir persévérer dans le bien. À persévérer dans ce qui glorifie Dieu. À penser aux choses d'en haut. Je voudrais lire cet encouragement de Paul. Il martelait toujours, montrant que les choses célestes sont merveilleuses, sont dignes de nous amener à persévérer. Je suis dans Colossiens chapitre 3, je commence au premier verset. Ça, ce sont des textes qui nous édifient beaucoup. Je lis la parole de Dieu.
Colossiens 3,
1 à 4, disons ça. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous voyez, cherchez. Comment pouvons-nous chercher si on ne persévère pas? Le mot chercher est même attaché à la persévérance. Il faut chercher. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Regardez le verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Toujours une façon de marteler, de dire, en fait, persévérez. Quand le Seigneur paraîtra, vous aussi vous allez paraître. En fait, c'est pas pour dire que nous n'existons pas. Non, nous existons avec des corps corruptibles, avec des corps qui souffrent des fois, avec des corps qui tombent malades. Mais ce jour-là, quand le Seigneur paraîtra, nous également nous paraîtrons. En d'autres termes, la gloire d'un corps merveilleux va apparaître. Nous aurons un corps incorruptible, un corps merveilleux, nous serons glorifiés. Alors nous nous dirons, oui, on avait raison de persévérer, mon frère. On avait raison de nous attacher à Dieu. Persévérance est très important. Le relâchement, je voudrais quand même parler du relâchement. Comme ennemi de ces choses, ennemi de la persévérance. Jésus a martelé là-dessus. Je voudrais lire Luc chapitre 18. Jésus a donné des paraboles où il voulait juste que ses enfants ne puissent pas se relâcher, mais qu'ils puissent persévérer. Luc chapitre 18, une parabole que beaucoup connaissent très bien. On va quand même la lire. Je commence au premier verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà. C'est-à-dire, quand je lis cette parabole, je me suis toujours dit, sûrement Christ, ce jour-là, il a constaté que ceux qui le suivaient allaient se relâcher. Alors, il s'est dit, bon, il faut que je leur dise quelque chose pour les amener à ne pas se relâcher. Voilà. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier.
Mais quand tu lis même le texte dans son contexte, par exemple dans Luc 17, comment ce verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi je prends ce texte? La femme de Lot est sortie de Sodome et Gomorrhe. elle a regardé en arrière pendant qu'elle marchait. On va dire d'une certaine manière que sa persévérance n'était pas totale.
Voilà.
On la sort d'une ville de péché qui va être détruite. Mm-hmm. Mais au lieu de persévérer dans cette marche, de suivre Dieu vers un lieu de salut, elle s'arrête. Elle se retourne et elle regarde. Parce que son cœur était encore attaché à Sodome et Gomorrhe. Certainement qu'elle pensait à ses richesses, qu'elle pensait à ses amis, qu'elle pensait à tout le bien qu'elle avait pu avoir du côté positif de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe représentent le monde. Lorsque nous sortons du monde, nous devons comprendre que le monde va être détruit par Dieu. Et nous n'avons pas à nous détourner dans notre chemin. Nous ne devons pas nous arrêter. Elle s'est arrêtée. Le relâchement, le sommeil sont des synonymes de arrêter, de s'arrêter dans la marée. Elle a stoppé sa croissance spirituelle. Pourquoi ? Pour les choses qu'elle avait laissées. Et malheureusement, la pauvre dame, elle est morte. Donc le chrétien qui ne persévère pas, le chrétien qui ne continue pas dans sa marche, dans son chemin, va finir par tout perdre. Et c'est ce que Jésus veut certainement dire dans la parabole du juge unique. Vous avez besoin de quelque chose. Persévérez dans la prière. Ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous soyez arrivé. Bien sûr, ça c'est une des formes de prière. Ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous ayez obtenu ce pourquoi vous avez commencé à prier. Ne vous dites pas, ah non, ça prend du temps. Ah, ça fait des semaines que je suis en train de prier pour la conversion de mon mari, de mon père, de mon frère, de mes soeurs, de mon épouse, de mes enfants. Ça ne marche pas, ça fait des années que je prie. Non, persévérez. Parce que celui qui a fait la promesse, celui qui a dit continuer dans ce chemin-là, est fidèle. Amen. Il sait Amen. Que ce qu'il promet va se réaliser.
Amen. Ça, c'est une réalité. Et d'où le chrétien doit avoir confiance en la parole de Dieu. Croire que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Les hommes peuvent mentir. Un homme peut promettre et puis il meurt.
Pour plusieurs raisons, un voilà. homme peut ne pas réaliser ses promesses.
Ouais.
Les bonnes intentions, oui. mais il vous dit, je ne sais plus tenir ma promesse parce oui. que telle situation. Lui, qui est fidèle, qui est le maître de tout, du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, il accomplira ce qu'il a promis.
C'est
pour ça que nous avons besoin de persévérance.
Oui.
Foi et persévérance égale héritage des promesses de Dieu.
Et Christ même dans cette parabole finit par demander, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. Est-ce qu'il va trouver des gens qui continuent à croire en sa parole et qui continuent à persévérer comme la veuve devant le juge inique? Notre Dieu est tout-puissant, bien-aimé. Le Dieu en qui nous avons cru, il est tout-puissant. Nous devons persévérer. Nous devons croire en ses paroles, croire en ses méthodes. Ses méthodes sont grandes, sont capables d'ouvrir toutes les portes fermées. Mais c'est notre part. Notre part est de croire. La parole est capable de tout. Et Jésus-Christ n'a pas raconté cette parabole pour raconter. Ah, ça je le dis. Il l'a raconté pour nous dire que vous voyez ce que cette femme a fait. Elle ne s'est pas relâchée, mais elle a persévéré. Un peu pour dire par rapport à cette promesse, ce texte, je voulais dire de Hébreux chapitre 12, où il est dit, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Nous, chrétiens, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Hébreux chapitre 12, je suis au verset, je lis le verset 1 à 2, je commence là. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voilà. Courons avec persévérance, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ayant les yeux vers Jésus. Jésus c'est qui? Jésus la parole. Même quand tu trouves que, en tout cas, j'en ai marre, regarde simplement Jésus, tu vas persévérer. Ayant les regards sur la parole, nous persévérerons et nous remporterons beaucoup de choses. Que le Seigneur vous fortifie, mes frères.
Persévérance. Nous devons persévérer dans notre marche chrétienne. Ne pas se décourager. Ne pas abandonner le combat. Ne pas abandonner Jésus-Christ. Peut-être qu'à l'écoute de ce message, ça vous a réveillé. Pour une raison ou pour une autre, vous étiez relâché de Christ. Vous avez relâché la main de Christ. Vous avez lâché la main de Christ à cause des difficultés. La bonne nouvelle, c'est que Dieu continue à vous aimer. S'il a permis que vous écoutiez ce message aujourd'hui, c'est parce qu'il veut vous reprendre avec lui. C'est parce qu'il veut continuer à marcher avec vous. Il vous aime. Il ne tient pas compte de votre vie. Il ne tient pas compte de vos difficultés. Pardon. Il ne tient pas compte de votre manquement, de votre faiblesse. Mais il vous dit, je vous aime et j'ai un plan pour votre vie. Je vous aime, je suis mort pour vous à la croix il y a 2000 ans. Et je viens bientôt vous reprendre. Mais j'ai besoin que vous soyez dans la persévérance, mon frère, ma sœur. Vous voulez dire, frère, priez avec moi. Soutenez-moi dans la prière parce que je suis faible ou parce que je me relâche souvent. Aujourd'hui, l'opportunité vous est donnée de revenir à Christ. Si vous êtes d'accord, c'est très simple. Baissez la tête dans la prière et je vais prier pour vous. Et vous vous direz simplement Amen à la fin de la prière. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens te présenter mon frère, je viens te présenter ma sœur, qui a écouté ton message aujourd'hui, Seigneur, et qui reconnaît qu'il a relâché, qui reconnaît qu'il n'a pas été persévérant, mais qui veut continuer la marche avec Jésus-Christ, malgré les difficultés, malgré les peines, malgré les douleurs. Seigneur, tu sais que c'est difficile. Ô Père éternel, fais grâce à cet homme, fais grâce à cette femme de tenir debout jusqu'au retour de Jésus-Christ. Père, soutiens-les parce que sans ton soutien, personne ne pourra continuer le combat. Sans ton soutien, personne ne pourra continuer à persévérer dans la marche chrétienne. Nous avons besoin de ta grâce. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ces prières. Amen.
Amen.
Si vous avez fait cette prière, croyez que Dieu vous a entendu. Vous avez besoin de persévérance, vous avez besoin de continuer le chemin, ne vous découragez pas parce que Dieu vous aime. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la persévérance. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine, que Dieu vous bénisse.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.